これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。ヘッベンガ
ルゲサワ
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Cédric Châtelus.
Et à la réalisation aujourd'hui, François Connac. Le besoin d'une foi puissante n'est pas la preuve d'une foi puissante, c'est plutôt le contraire. Quand on croit en Dieu, on peut se payer le luxe d'en douter, d'en débattre, et il n'est pas nécessaire de l'imposer aux autres. Les tartuffes, ce sont les fanatiques qui compensent leur impiété par un surcroît de vertu, c'est-à-dire de violence. Tartuffe est un dévot, un bigot, un intégriste, c'est-à-dire un impie, un mécréant, un aventurier, un chasseur de pigeons qui trouve en Orgon une proie rêvée. Privilège du génie de Molière, dont les vers, flinguant les hypocrites, résonnent aujourd'hui comme l'immense désaveu que la raison porte à ceux qui, faute de croire en Dieu, se prennent pour lui et développent, en usurpant sa place, un redoutable sens des affaires.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
C'est de Tartuffe que nous parlons aujourd'hui, une des pièces les plus classiques du répertoire moliéresque et partant l'une des plus étudiées au lycée. On serait tenté de se dire qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qui a déjà été dit sur cette pièce que nous pensons tous connaître. Et même à la rigueur, il suffirait d'en lire le premier acte qui nous expose de fond en comble la situation. Un faux dévot manipulateur et concupissant a été introduit dans le foyer par le père de famille qui s'en est follement entiché. Dès lors, aucune surprise, si ce n'est l'incroyable crédulité d'Orgon qui ne cesse, contre toute évidence, d'adorer son Tartuffe, son pauvre homme, son frère.
Allons, flipote, allons, que de je me délivre. Laissez, ma bru, laissez, ne venez pas plus loin. Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin.
De ce que l'on vous doit envers vous, on s'acquitte, mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite?
C'est que je ne puis voir tout ce ménage scié que de me complaire, ne prendre nul souci.
Oh.
Oui, je sors de chez vous fort mal édifié. Dans toutes mes leçons, j'y suis contrarié, on n'y respecte rien. Chacun y parle haut et c'est tout justement la cour du roi Péto.
Si vous êtes, mamie, une fille suivante, un peu trop forte en gueule et fort impertinente, vous vous mêlez surtout de dire votre avis.
Mais...
Vous êtes un sot, en trois lettres, mon fils. C'est moi qui vous le dis, que je suis votre grand-mère. Et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement et ne lui donneriez jamais que du tourment.
Raphaël, on vient d'entendre le début de ce qu'on appelle la scène d'exposition.
Ouais, c'est la plus belle scène d'exposition de toutes les pièces de Molière, à mon avis. Hein.
Et
c'est la plus marrante, en tout cas.
On y voit Madame Pernelle,
oui,
qui engueule sa famille, dont elle sort, comme elle dit, fort mal édifiée. Et c'est une scène qui permet tout simplement une présentation des personnages, du contexte, de la situation.
Ah oui, alors là, vraiment, c'est une scène d'exposition qui remplit pleinement son office.
Presque trop, j'ai envie de dire. Hein. C'est ce que je disais rapidement, ce que je supposais...
Ce que vous laissiez entendre dans votre chapeau, oui, c'est vrai.
C'est qu'on est au courant de tout, presque. Et d'ailleurs, Tartuffe, tout le monde le sait, intervient seulement à l'acte 3, mais dans cette scène d'exposition, on sait... Enfin, nul suspense, quoi.
Nul suspense. On sait tout ce qu'il y a à savoir. Bon, la seule chose qu'on ignore encore, c'est l'épilogue. Orgon sera-t-il ou non détrompé dans l'amour qu'il porte, sera-t-il ou non détourné de l'amour déraisonnable qu'il porte à cet escroc, c'est la seule chose qu'on ignore. Mais pour le reste, alors, tous les personnages sont présentés les uns après les autres, Dorine, Damis, Cléante, Elmire, la femme d'Orgon, Marianne, la fille un peu veule d'Orgon, ils sont tous là.
À travers le prisme de Madame Pernelle.
C'est ça qui est formidable, c'est que c'est Madame Pernelle qui les présente, donc c'est Madame Pernelle qui les engueule. Elle leur reproche d'être ce qu'ils sont et elle est elle-même la porte-parolesse, si j'ose dire, la porte-parole, la maîtresse de toute illusion en cette maison. Et c'est intéressant d'observer que dans cette famille, tous les personnages de cette famille composent, et Orgon inclus, Orgon n'est pas encore là, hein, il n'est pas encore apparu, il va arriver, c'est la fameuse scène du pauvre homme dont on reparlera. Tous les personnages de la famille d'Orgon composent, réunis, ce qu'on peut appeler une société entière, un peu à l'image de la ferme des animaux d'Orwell, dont, si vous le souhaitez, un jour nous parlerons dans le Gai Savoir, parce que ça me semble un texte tout à fait intéressant de ce point de vue. Vous avez Damis, le fils d'Orgon, qui incarne clairement Une sorte d'iconoclasme, franc du collier, liberté de pensée. C'est celui qui veut confondre Tartuffe, c'est celui qui veut dire à son père ce qu'il en est, et qui se retrouve d'ailleurs le bec dans l'eau, parce que la puissance d'illusion de son père est telle qu'il ne peut rien entendre des arguments d'un fils qu'il s'apprête à déshériter au profit de son fils choisi, de son frère choisi, de son amoureux, Tartuffe. Vous avez Marianne, la fille d'Orgon. Alors, Marianne, c'est intéressant parce que Marianne, elle est lâche. Elle est lâche, c'est une sorte d'Ismène moliéresque. Elle est lâche, elle est soumise à son père. C'est le peuple endormi, c'est le munichisme, Marianne. C'est celle qui préfère se coucher, c'est celle qui veut pas d'ennui. C'est le bon français en 42 qui veut pas d'ennui, Marianne, si vous voulez. C'est celle qui dit, alors, par exemple, pour la citer, « Un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. » Marianne, c'est celle que Orgon destine à Tartuffe, alors qu'il a déjà donné sa foi à Valère, qui fait la cour à Marianne. Finalement, il change d'avis et il la donne à Tartuffe parce qu'il soupçonne Valère d'être un peu libertin puisqu'il ne le voit point hanter les églises. Et Marianne, elle se couche. Il faut que Dorine, qui elle, pour le coup, incarne la résistance à l'oppresseur, l'héroïne du rire, la porte-parole de la vérité, aussi un prolétariat, non dupe des flatteries d'un tribun qui aimerait bien d'ailleurs coucher avec elle aussi, puisque Tartuffe aimerait bien se faire Dorine. Dorine est celle qui rappelle à Marianne qu'elle ne peut pas se coucher. Si j'ose dire. Elle peut pas se laisser faire par son père. Donc, elle incarne, d'une certaine manière, une puissance de résistance encore à l'œuvre dans le peuple lui-même. Elmire, la femme d'Orgon, ce sont les hautes sphères aristocratiques que le miséreux voudrait bien violer, ou qu'il voudrait bien posséder pour avoir le sentiment lui-même de s'élever. C'est tout le sens de la scène hallucinante où Tartuffe essaie littéralement de violer Elmire, quasiment sous les yeux de d'Orgon, qui ne réagit qu'au moment où Tartuffe dit du mal de lui, et non pas au moment où il pose ses mains sur sa femme.
Cléante,
c'est le frère. Cléante, c'est le frère. C'est une figure de la sagesse. C'est peut-être le personnage le plus traditionnel dans les pièces de Molière. C'est le personnage secondaire le plus traditionnel dans les pièces de Molière. C'est le raisonneur. Non, parce que raisonneur, c'est péjoratif. Mmh. Ah, vous faites le raisonneur, monsieur. Hein. C'est ce qu'Alceste dit à Philinte. Vous faites le raisonneur. C'est ce que Argan dit à Bérald, son frère également dans Le Malade Imaginaire. Vous faites le raisonneur. C'est en général ce qu'on dit quand on peut plus répondre, quand on n'a plus d'arguments, parce que le raisonneur a raison. Et Cléante, c'est celui qui, effectivement, essaie de... C'est le discours de la sagesse, c'est le discours de la raison, c'est le discours de l'évidence. Mais enfin, mon frère, vous êtes fou avec toutes ces fadaises. Vous voyez bien que Tartuffe est un imposteur. S'il se jette en prière sous vos yeux, c'est précisément parce que vous le regardez. C'est le même homme qui, si vous ne le regardez pas, ne se jetterait pas en prière. Donc Cléante, c'est celui qui essaie d'éclairer Orgon là-dessus. Mais il a autant de prise sur l'intellect ou le cœur de son frère que la morale... a de prise sur le mal en ce monde, si vous voulez. C'est-à-dire que Cléante, c'est celui dont les professions de foi sont à peu près aussi efficaces que celui qui, le soir du Nouvel An, appelle à la paix dans le monde en espérant que cette fois-ci, ça marche. Mais tous ces personnages-là composent une société. Or, cette société est viciée, pourrie, non pas tant par Tartuffe que par ceux qui sont capables de lui faire une telle place, c'est-à-dire que par les pigeons de Tartuffe. Et
Pernel.
Les pigeons, ils sont... Voilà. Il y a Pernel qui est pigeonne en chef et il y a Orgon qui est fils de pigeonne et qui, de ce point de vue d'ailleurs, est le digne fils de sa mère. C'est celui qui vraiment ne rate jamais aucune illusion. Et c'est cette représentation d'une société qui, à mon avis, est importante parce que ça permet de donner à cette pièce des résonances politiques qui, que voulez-vous, à l'heure où nous enregistrons cette émission, comme disent les journalistes, sont tout à fait stupéfiantes, tout à fait étonnantes. Pour le dire très vite, Madame Pernel, c'est l'intégrisme. C'est l'intégrisme à l'œuvre. C'est un intégrisme hermétique aux faits et c'est un intégrisme vitupérant, hermétique aux arguments comme aux faits et d'autant plus violent qu'il est justement sourd à toute forme d'objection, de désaveu, bref, hermétique à la possibilité même de sa réfutation.
Est-ce qu'on pourrait mettre ce que vous avez dit en parallèle avec la phrase, avec une citation que j'ai trouvée dans Force majeure de Clément Rosset, qui dit que toute croyance ne se nourrit que d'une horreur à l'égard de sa propre lucidité, ne se soutient que d'un combat incessant contre l'évidence.
Ah, c'est une citation magnifique. C'est une citation dans laquelle... Rosset en fait reprend l'intuition de Nietzsche que j'ai citée sans le citer, j'ai enlevé les guillemets dans mon chapeau, qu'on me pardonne hein. Le besoin d'une foi puissante n'est pas la preuve d'une foi puissante, c'est plutôt le contraire, c'est une phrase de Nietzsche. Et en fait, Rosset ne fait qu'expliciter cela. Quelle est la thèse de Rosset et de Nietzsche? Et au fond, c'est que nous savons tout. Celui qui se divertit est une conscience tragique, parce qu'il sait qu'en se divertissant, c'est à la mort qu'il veut échapper. Ou c'est à l'idée de la représentation de sa propre mort qu'il veut échapper. Nous savons toujours tout. Nous ne pouvons pas, comme nous savons tout, comme le snob sait qu'il est snob, l'homme du divertissement sait qu'il se divertit et que c'est un enjeu fondamental parce qu'il a besoin de ne pas ouvrir les yeux sur une réalité qu'il ne pourrait pas ne pas voir s'il ouvrait les yeux. Comme nous savons toujours tout, eh bien, nous sommes hermétiques à ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Un homme qui sait que Jésus n'a pas marché sur l'eau est hermétique à celui qui le lui démontre, argument de la physique à l'appui. Et pourtant, celui qui le sait le croit pour cette raison-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et Rosset tire ce système, et c'est là que, à mon avis, on est en plein dans l'objet de Tartuffe, tire cette intuition du côté de l'idéologie. Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie pour Rosset ? Prenons par exemple l'idéologie capitaliste. Rosset dit, il n'y a pas un patron qui ignore qu'il pratique en un sens l'exploitation de l'homme par l'homme. Il le sait, il le sait. C'est la raison pour laquelle, quand on le lui dit, on ne lui apprend rien. C'est aussi la raison pour laquelle il ne peut pas entendre ce qu'on lui dit. Au départ de cela, il y a Pascal. Il y a l'idée que le grand, le futur duc de Luynes, par exemple, sait, doit savoir qu'il ne doit sa grandeur d'établissement qu'à un hasard, à une contingence qui lui a valu de naître duc de Luynes plutôt que de naître Tartuffe ou Orgon ou quelqu'un d'autre. Donc il le sait, et c'est précisément la raison pour laquelle il ne doit pas le dire aux gens qu'il gouverne, parce qu'eux-mêmes le savent. L'idéologie, c'est pas l'ignorance. L'idéologie, c'est un savoir qui ne veut pas se savoir lui-même. C'est un savoir qui veut rester dans l'ignorance de lui-même, précisément parce que c'est un savoir. C'est toute la difficulté en philo. En philosophie, qu'est-ce qu'on fait en philo ? On n'apprend pas quelque chose à quelqu'un. On lui enseigne ce qu'il sait déjà, et que pour cette raison même, il ne veut pas savoir. C'est en cela que la philosophie lutte contre l'idéologie. Et le besoin d'une foi puissante, incarné par Madame Pernelle, par Orgon, cette façon qu'ils ont l'un et l'autre de fuir l'entretien. Orgon, à un moment, n'en pouvant plus des remontrances de son frère, mais surtout comprenant qu'il va céder aux arguments de son frère, tant son frère a raison, dit « Écoutez, adieu mon frère, j'ai ici telle affaire urgente qui m'appelle. » Et donc, il quitte le terrain, il déserte la partie, il ne peut pas rester. Il ne peut pas, parce qu'il le sait déjà. Donc oui, bien sûr, cette phrase est pleinement applicable à Tartuffe, dans la mesure où on sait tout. Et d'ailleurs, on a parlé de la scène d'exposition comme une scène limpide qui expose tout. Mais le fait que tout soit su au début de la pièce n'enlève rien à la densité et aux péripéties qui accompagnent les cinq actes de Tartuffe. Ça va avec, d'une certaine manière. C'est même inséparable. C'est parce qu'on est dans un monde d'idéologie, c'est parce qu'on est dans un monde où personne n'ignore rien de ce qu'il est, que chacun se le cache. Et c'est le Tartuffe, et c'est pour ça, je crois, d'abord un chef-d'œuvre.
En 1995, il me semble, Ariane Mnouchkine avait, au Festival d'Avignon, représenté le Tartuffe. Et dans le personnage de Tartuffe et de Madame Pernelle, elle avait mis des intégristes islamistes.
Tiens, d'ailleurs, avant d'en venir à l'intégrisme islamiste, vous avez remarqué, vous vous souvenez de la tirade du nez dans Cyrano de Bergerac ? Tout le monde s'en souvient, mais juste après la tirade du nez. Vous savez, quand Cyrano remet Valvert à sa place, en lui disant, c'est un peu court, jeune homme, on aurait pu dire odieux bien des choses en somme. Et il lui dit tout ce qu'il aurait pu lui sortir sur son tarin. Et il termine en disant, voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ». Or ça, c'est une reprise directe du 20e vers de Tartuffe qui, pour mémoire, se termine par « Vous êtes un sot en trois lettres, mon fils, c'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère, et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement et ne lui donneriez jamais que du tourment. »
J'ignore ce qu'au fond le serviteur peut être, mais pour homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se courrousse, et l'intérêt du ciel est tout ce qui le pousse.
Oui, mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il souffrir qu'aucun hante séant ? En quoi blesse le ciel une visite honnête, pour en faire un vacarme à nous rompre la tête ? Veut-on que là-dessus je m'explique entre nous ? Je crois que de madame, il est, ma foi, jaloux.
Taisez-vous et songez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui tout seul qui blâme ses visites. Tout ce tracas qui suit les gens que vous hantez, ces carrosses sans cesse à la porte plantées, et de tant de laquais le bruyant assemblage, font un éclat fâché dans tout le voisinage. Je veux croire qu'au fond, il ne se passe rien, mais enfin, on en parle, et cela n'est pas bien.
Voulez-vous, madame, empêcher qu'on ne cause? Ce serait dans la vie une fâcheuse chose si pour les sots discours où l'on peut être mis, il fallait renoncer à ses meilleurs amis. Et quand même, on pourrait se résoudre à le faire. Croiriez-vous obliger tout le monde à se taire? Contre la médisance, il n'est point de rempart. À tous les sots caquets, n'ayons donc nul égard et forçons-nous de vivre avec toute innocence et laissons aux causeurs une pleine licence.
Daphné, notre voisine, et son petit époux, ne seraient-ils point ceux qui parlent mal de nous? Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. Ils ne manquent jamais de saisir promptement l'apparente lueur du moindre attachement, d'en semer la nouvelle avec beaucoup de joie et d'y donner le tour qu'ils veulent qu'on y croie. Des actions d'autrui teintes de leur couleur, ils pensent dans le monde autoriser les leurs, et sous le faux espoir de quelques ressemblances aux intrigues qu'ils ont données de l'innocence, ou faire ailleurs tomber quelques traits partagés de ce blâme public dont ils sont trop chargés.
Tous ces raisonnements ne font rien à l'affaire. Mais on sait Corinthe mène une vie exemplaire. Tous ses soins vont au ciel, et j'ai su par des gens qu'elle condamne fort le train qui vient séant.
L'exemple est admirable. Et cette dame est bonne. Il est vrai qu'elle vit en austère personne. Mais l'âge dans son âme a mis ce zèle ardent. Et l'on sait qu'elle est prude à son corps défendant. Tant qu'elle a pu des cœurs attirer les hommages, elle a fort bien joui de tous ses avantages. Mais voyant de ses yeux tous les brillants baissés, au monde qui la quitte, elle veut renoncer. Et du voile pompeux, d'une haute sagesse, de ses attraits usés déguiser la faiblesse. Ce sont là les retours des coquettes du temps. Il leur est dur de voir déserter les galants. Dans un tel abandon, leur sombre inquiétude ne voit d'autre recours que le métier de prude. Et la sévérité de ces femmes de bien censure toute chose et ne pardonne à rien. Hautement d'un chacun, elles blâment la vie, non point par charité, mais par un trait d'envie qui ne saurait souffrir qu'une autre. Elle est plaisir dont le penchant de l'âge a sevré leur désir.
Voilà les contes bleus qu'il vous faut pour vous plaire. Ma bru, on est chez vous contrainte de se taire, car madame, à jaser, tient le dé tout le jour. Mais enfin, je prétends discourir à mon tour. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez soi ce dévot personnage, que le ciel, au besoin, l'a séant envoyé pour redresser à tous votre esprit fourvoyé, que pour votre salut, vous le devez entendre, et qu'il ne reprend rien qui ne soit à reprendre. Ces visites, ces bals, ces conversations sont du malin esprit, toutes inventions. Là, jamais on entend de pieuses paroles. Ce sont propos oisifs, chansons et fariboles. Bien souvent, le prochain en a sa bonne part et l'on y sait médire et du tiers et du quart. Enfin, les gens sensés ont leur tête troublée de la confusion de telles assemblées. Mille caquets divers s'y font en moins de rien. Et comme l'autre jour un docteur dit fort bien, c'est véritablement la tour de Babylone, car chacun y babille et tout du long de l'aune. Et pour conter l'histoire où ce point l'engagea, voilà-t-il pas monsieur qui ricane déjà? Allez chercher vos fous qui vous donnent à rire et sans... Adieu, ma bru. Je ne veux plus rien dire. Sachez que pour séant, j'en rabats de moitié. Et qu'il fera beau temps quand j'y mettrai le pied. Allons, vous! Vous rêvez et baguez corneille, jour de gueule! Le soleil vous fera rater les oreilles. Marchons, bon! Marchons!
On remarque dans l'extrait qu'on a entendu que Madame Pernel est la première à vouloir faire taire les autres et se plaindre qu'elle, on l'empêche de parler, de discourir dans la maison de sa bru.
Ah oui, voilà les contes bleus qu'il vous faut pour vous plaire, ma bru. L'on est chez vous contrainte de se taire. Or, c'est la même qui n'arrête pas de dire « taisez-vous » et qui s'indigne qu'on la fasse taire. Ça, c'est un signe distinctif en général, non pas seulement de l'idéologie, mais tout simplement de l'intolérance, voire, d'ailleurs, on en a déjà parlé ici, de ce que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité. Quels sont les reproches de Madame Pernel? Quels sont les griefs de Dame Pernel, de l'affreuse Pernel, de l'horrible Cruella, de cette immonde vieille qui fait tant de mal à sa famille? La liberté d'expression, Elle conteste absolument la liberté d'expression, elle s'indigne que Dorine puisse lui parler comme elle lui parle, elle s'indigne même que les gens, même les flipotent ce personnage énigmatique et quasiment absent de la pièce, flipotent qui est quand même la première nommée, allons flipotent, allons que deux je me délivre, qui est la suivante de Madame Pernel. Flipotte a même elle-même une façon de se taire qui mérite un soufflet, si vous voulez. Donc, qu'on parle ou qu'on se taise, de toute façon, on est coupable. Elle conteste le droit lui-même de contester. Elle veut faire taire tout le monde en s'indignant qu'on la fasse taire. Elle se méfie de tout cela. C'est-à-dire qu'elle est celle qui dit « Et merci de ma vie, il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres pieux. » En d'autres termes, la liberté n'est rien à côté du bien. C'est le propos de Madame Pernel. Et alors, quels sont les ennemis de Madame Pernel? Bien sûr, la liberté d'expression, mais également... C'est quand même pas un hasard, et il faut le noter ici, le rire. Madame Pernel déteste le rire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle elle est si drôle. C'est un personnage hilarant parce que c'est un personnage qui déteste le rire. Pourquoi déteste-t-elle le rire? Parce que voulez-vous, l'intégrisme ne supporte pas l'humour. On le sait, on l'a vu, on s'en aperçoit, il faudra jamais l'oublier. L'intégrisme ne supporte pas l'humour. Molière l'a vu avant tout le monde, et c'est peut-être d'ailleurs de toutes les... motif de haine que cette pièce a éveillé chez ses contemporains, c'est peut-être le plus violent, c'est peut-être le plus redoutable. C'est-à-dire qu'au fond, avant de dire que les gens sont hypocrites, Molière enseigne que les bigots détestent l'humour. Ils détestent l'humour précisément parce que leur position est fragile. Écoutez Pernel, allez chercher vos fous qui vous donnent à rire. Voilà-t-il pas monsieur qui ricane déjà? C'est le péché par excellence, plus encore que les propos oisifs, chansons et fariboles, plus encore que d'être obligé de se taire. Elle est celle qui ne supporte pas le rire, comme elle est celle qui ne supporte pas, si j'ose dire, le nietzschéisme de Dorine. Que dit Dorine en faisant le portrait de Orante, donc cette dame qui désavoue le train qu'on mène séant. Dorine dit, l'exemple est admirable et cette dame est bonne, il est vrai qu'elle vit en austère personne. Et puis un peu plus loin, elle dit, au monde qui la quitte, elle veut renoncer, et du voile pompeux d'une haute sagesse, de ses attraits usés, déguiser la faiblesse. Ce sont là les retours des coquettes du temps. Il leur est dur de voir déserter les galants, dans un tel abandon, leur sombre inquiétude ne voit d'autre recours que le métier de prude. Autrement dit, plus exactement, La charité n'est que l'expression du ressentiment.
Ça me rappelle une phrase que disait La Bruyère, dont on a parlé, qui est le contemporain de Molière. Et La Bruyère dit, il entre dans, en parlant des vieux, il entre dans cette conduite une sorte d'attachement pour les choses mêmes que l'on vient de quitter. L'on aimerait qu'un bien qui n'est plus pour nous ne fût plus aussi pour le reste du monde. C'est un sentiment de jalousie.
Voilà, et Guitry a su s'en souvenir quand il a dit que les vieillards donnaient de bons conseils pour n'être plus en âge de donner de mauvais exemples. Et la généalogie de cette pruderie fanatique, de cette pruderie frénétique et fanatique, renseigne sur l'impiété de l'intégriste. Cette pièce peut servir à décrypter cela. À quoi on a assisté avec les attentats de janvier? On a assisté à des impies dont l'impiété a pris la forme de l'intégrisme, c'est-à-dire des gens qui ont non pas tué Charlie Hebdo, mais qui ont tué Dieu lui-même, si l'on considère que Dieu meurt à chaque fois qu'on tue ou que quelqu'un tue en son nom. Je veux dire, celui qui caricature le prophète, c'est pas celui qui dessine le prophète, c'est celui qui, en son nom, le tue. Celui qui méprise Dieu, c'est celui qui considère qu'Allah est si petit et non pas grand qu'il a besoin du secours de trois déshérités, et encore pas vraiment, et de leur mitraillette pour accomplir ses volontés. C'est celui-là qui est dans l'impiété. Or, cette impiété-là ne supporte rien, ne peut rien supporter, tant elle est fragile, tant elle est faible. L'intégrisme, c'est la tenue de soirée de la mécréance, du fait de ne pas croire, justement. Le drame des intégristes, c'est pas leur surcroît de croyance, on en a déjà parlé, c'est leur absence de croyance, c'est leur impiété. Et Madame Pernel est au cœur de cela, c'est la raison pour laquelle elle ne supporte aucune objection. Et ce qui est intéressant avec Tartuffe, c'est que, avec cette pièce, c'est que, à la fois, il met au jour ce qu'il peut y avoir d'idéologique, c'est-à-dire d'impiété sous l'intégrisme, et dans le même temps, il produit des personnages tellement énigmatiques qu'ils élèvent ou qu'ils emmènent la pièce, à mon avis, plus loin que cela, qu'ils l'emmènent ailleurs. C'est pas seulement une satire de l'intégrisme, Tartuffe, c'est aussi une pièce bizarre, c'est aussi une pièce étrange.
Un petit mot juste, vous avez parlé du portrait de Dorante. Il préfigure en quelque sorte le personnage d'Arsène Noé dans Le Misanthrope.
C'est le portrait d'Arsène Noé. Alors c'est le portrait d'Arsène Noé avant l'heure, puisque Le Misanthrope date de 1666. Le Tartuffe est, le précède de 2 ans. Mais on sent déjà que le personnage d'Arsène Noé est en gestation chez Molière. D'ailleurs, on en avait parlé quand on avait parlé du Misanthrope. Arsène Noé, c'est Tartuffe. C'est la même école au fond. C'est le même déni. Enfin, c'est Madame Pernelle plus que Tartuffe, en vérité, Arsène Noé, parce que Tartuffe, il n'est pas dans le déni. Tartuffe, il est uniquement fourbe, complètement fourbe. Mais vous voyez, quand Célimène parle à Arsène Noé dans cette espèce de lutte comme ça qu'elles se font l'une à l'autre, où Arsène Noé reproche à Célimène ses mœurs et où Célimène reproche à Arsène Noé sa pruderie, son opportune pruderie, Célimène lui dit « Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout, et chacun a raison suivant l'âge ou le goût. Il est une saison pour la galanterie, il en est une aussi propre à la pruderie. On peut par politique en prendre le parti quand de nos jeunes ans l'éclat est amorti. » Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces. L'âge amènera tout, et ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à 20 ans. À quoi Arsène Noé, dans Le Misanthrope, répond à Célimène : certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage, et vous faites sonner terriblement votre âge. L'adverbe est très important, terriblement. Toute la détresse d'Arsène Noé, comme la détresse d'Armande, par exemple, dans Les Femmes Savantes, est contenue dans cet adverbe, terriblement. La terreur d'Arsène Noé devant le fait qu'elle vieillit. Et la terreur d'Arsène Noé face à quelqu'un qui a déconstruit son système, qui a déconstruit le bon petit système de vertu qu'elle s'était fait dans sa tête pour supporter le passage des ans, le passage du temps. Voilà quelqu'un qui le révèle au jour. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et c'est pour ça que cette pièce est insupportable. Le Misanthrope, comme le Tartuffe. C'est pour ça que ces pièces sont insupportables aux imbéciles de leur temps. Parce que ce sont des pièces qui tendent aux gens un miroir tellement fidèle qu'il n'est pas digeste, qui montre toute l'hypocrisie qu'il y a derrière les leçons de morale, les leçons de vertu. Et ça, c'est pas possible, c'est pas audible, c'est pas dissible. Tartuffe s'en prend pas à la religion, Tartuffe s'en prend à l'hypocrisie. Le Misanthrope s'en prend pas à la mondanité ou à l'érémitisme. Non, le Misanthrope s'en prend à la mauvaise foi. Et c'est ça qui est insupportable. Ça n'est pas un travers particulier de l'humanité. C'est une disposition fondamentale du caractère qui veut qu'on tourne le dos à ce qu'on est dans l'existence et qu'on passe nos vies à recouvrir ce qu'on sait, ce qu'on est, de ce qu'on a envie de penser et du voile rassurant des mensonges, des choses qui mentent et qui rassurent et qui nous permettent de survivre dans ce monde où, voilà, qui n'est pas là pour nous.
Vous écoutez Le Gai Savoir, une émission de Raphaël Antoven et Paola Reymann, et nous vous parlons du Tartuffe, une des pièces les plus classiques du répertoire moliéresque et partant l'une des plus étudiées au lycée. Dit à propos de Madame Pernelle au début de l'émission, enfin on était en train de le dire justement en ce moment, que son désir de croire, sa puissance de croyance est tellement forte que l'empirisme, les faits n'y peuvent rien. Donc il serait intéressant d'écouter dans la fin de la pièce, au moment où, puisqu'il n'y a aucun suspense, hein, au moment où même Orgon a ouvert les yeux, a fini par ouvrir les yeux.
Oui, il a ouvert les yeux quand il s'est aperçu qu'il avait perdu tous ses biens, oui, quand il s'est aperçu qu'il avait fait don de toute sa propriété à Tartuffe, oui. C'est
et
ça qui ouvre les yeux.
Et qu'il se confronte à sa mère, et c'est très intéressant de voir la réaction de Madame Pernelle.
Oui, parce qu'elle ne veut rien entendre, et elle ne peut rien entendre. Il est très intéressant, on va entendre hein, cette scène, c'est la scène 3 de l'acte 5 à laquelle vous faites référence. Avant de l'entendre, un point. Madame Pernelle, elle n'apparaît qu'au début et à la fin de la pièce. Ça, c'est très étrange. Il y a deux trucs vraiment bizarres dans cette pièce. Il y a l'apparition de Madame Pernelle au début et à la fin de la pièce, et le fait que Tartuffe lui-même n'est qu'un fantôme jusqu'au début de l'acte 3. Il n'apparaît qu'au début de l'acte 3, et on verra de quelle façon. Donc, la figure de Madame Pernelle enchâsse cette pièce. On commence par les reproches de la Talibane à cette famille bourgeoise qui a repéré l'hypocrisie à laquelle elle seule est hermétique. Et ça se termine par une sorte de gigantomachie, de combat titanesque entre les faits. Tartuffe est un escroc, il m'a volé ma propriété, il va tous nous mettre à la rue, ma mère, voilà ce qui se passe. Orgon le dit lui-même, donc Orgon, enfin détrompé, le dit lui-même à Madame Pernelle. Et Madame Pernelle ne peut, ne veut rien entendre jusqu'à la fin où elle finit par baisser les bras. C'est d'ailleurs tout l'optimisme de cette pièce, c'est le moment où Madame Pernelle, quoi qu'elle soit une idéologue démente, c'est-à-dire quelqu'un qui, plus elle croit, c'est-à-dire moins elle croit, plus elle refuse d'entendre ce qui pourrait démentir sa croyance, Madame Pernelle se débat comme un beau diable, c'est le cas de le dire, comme une diablesse, contre l'évidence, contre les faits. On va l'écouter. Scène 3, acte 5.
Qu'est-ce ? J'apprends ici de terribles mystères.
Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins. Et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. Je recueille avec zèle un homme en sa misère. Je le loge et le tiens comme mon propre frère. De bienfaits, chaque jour, il est par moi chargé. Je lui donne ma fille et tout le bien que j'ai. Et dans le même temps, le perfide, l'infâme, tente le noir dessein de suborner ma femme. Et non contente encore de ces lâches essais, il m'ose menacer de mes propres bienfaits. Et veut à ma ruine user des avantages dont le viennent d'armer mes bontés trop peu sages, me chasser de mes biens, où je les transférais, et me réduire au point d'où je les retirais.
Le pauvre homme.
Mon fils, je ne puis du tout croire qu'il ait voulu commettre une action si noire.
Comment ?
Les gens de bien sont enviés, toujours.
Que voulez-vous donc dire avec votre discours, ma mère ?
Que chez vous, on vit d'étranges sortes. Et qu'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte.
Qu'a cette haine à faire avec ce qu'on vous dit ?
Je vous l'ai dit 100 fois quand vous étiez petit. La vertu dans le monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront, mais non jamais l'envie.
Mais que fait ce discours aux choses d'aujourd'hui ?
On vous aura forgé sans sot compte de lui.
Je vous ai déjà dit que j'ai vu tout moi-même.
Des esprits médisants, la malice est extrême.
Vous me feriez damner, ma mère. Je vous dis que j'ai vu de mes yeux un crime si hardi.
Les langues ont toujours du venin à répandre et rien n'est ici-bas qui s'en puisse défendre.
Se tenir un propos de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vu, ce qu'on appelle vu. Faut-il vous leur rebattre aux oreilles 100 fois et crier comme 4 ?
Mon Dieu, le plus souvent l'apparence déçoit. Oh. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit.
Chouage.
Aux faux soupçons, la nature est sujette. Et c'est souvent à mal que le bien s'interprète.
Je dois interpréter à charitable soin le désir d'embrasser ma femme.
Il est besoin pour accuser les gens d'avoir de justes causes. Et vous deviez attendre à vous voir sûr des choses.
Diantre, le moyen de m'en assurer mieux. Je devais donc, ma mère, attendre qu'à mes yeux, il eût... Vous me feriez dire quelque sottise.
Enfin, d'un trop pur zèle, on voit son âme éprise, et je ne puis du tout me mettre dans l'esprit qu'il ait voulu tenter les choses que l'on dit.
Allez, je ne sais pas si vous n'étiez ma mère, ce que je vous dirais quand je suis en colère.
Juste retour, monsieur, des choses d'ici-bas. Vous ne vouliez point croire, et l'on ne vous croit pas.
J'aime beaucoup les mots de Dorine sur lesquels on a arrêté l'extrait.
Ah, vous ne vouliez point croire et l'on ne vous croit pas.
Car le discours que tient Orgon à sa mère est celui que n'ont cessé de lui tenir Dorine, justement, Cléante, Damis, tout au long de la pièce.
Elmire aussi, d'ailleurs. Elmire aussi. Et d'une certaine manière, Marianne, même si elle n'est pas... Elle n'est pas, comment dire, courageuse, mais pas téméraire. Alors, quel est ce discours ? Paola, comment est-ce qu'on pourrait qualifier ce discours, au fond ? Comment pourrait-on qualifier le discours qu'Orgon tient à sa mère et qu'on a jusque-là, pendant 5 actes, vainement tenu à Orgon ? Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ce discours ?
Empirique, peut-être ?
Exactement, empirique. C'est un discours qui s'appuie sur l'expérience, sur les faits. C'est un discours qui s'appuie sur les faits. Et c'est un discours auquel Orgon, pendant toute la pièce, a répondu par un déni des faits. Un déni des faits, une méconnaissance totale des faits. Un déni qui lui-même se présentait comme étayé par les faits. C'est ça qui est génial en termes d'idéologie. Orgon, pour démontrer la vertu de Tartuffe, raconte comment, à l'église, Tartuffe se conduit magnifiquement, pleure, tous les gestes de la plus intense piété, etc., etc. Or, que démontrent ces gestes ? Ces gestes démontrent que Tartuffe est un acteur, mais Orgon emploie ces faits à l'appui de l'argument qui est le sien. Donc, il y a d'abord un mésusage des faits en idéologie, puisque l'idéologie, c'est ce qui précède tout rapport au monde. Donc l'idéologie est une forme de vigilance folle, c'est une vigilance aveugle. L'idéologie dépose sur le monde une certitude, Tartuffe est un homme formidable, et s'attache ensuite à prélever dans le réel les faits qui, soi-disant, corroborent cette certitude, alors que les apparences se chargent de démontrer d'elles-mêmes la fausseté de Tartuffe, la duplicité de Tartuffe. C'est le syndrome des lunettes noires. Quand on met des lunettes noires à des obsèques, c'est pas pour cacher ses larmes, c'est pour montrer qu'on les cache. Quand on va à la messe et qu'on est d'une piété stupéfiante, on montre par là même précisément qu'on est un impie, puisque la vraie piété n'a pas besoin de tant d'affectation et de tant de forfanterie. Mais alors, dans le dialogue entre Orgon et Madame Pernelle, c'est vraiment le dialogue des faits contre l'idéologie. Regardez, Orgon lui dit « Que voulez-vous donc dire avec votre discours ?» Ma mère. Un peu plus loin, il lui dit « Que fait ce discours aux choses d'aujourd'hui ?» Madame Pernelle, elle a un discours. Elle a un discours, c'est-à-dire, elle tient une parole qui digère l'intégralité des objections qu'on peut lui faire. Alors, Orgon voit quelque chose, elle lui dit « Mais non, on vous aura monté la tête, on vous aura orienté le regard, pas du tout, méfiez-vous des apparences. » Elle lui donne des conseils de prudence. Le plus souvent, l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. Ce qui rend Orgon fou, c'est que lui-même ne peut opposer que ce qu'il a vu à ce que Madame Pernelle pense. C'est tenir un propos de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je, vu de mes propres yeux, vu ce qu'on appelle vu. Faut-il vous le rebattre aux oreilles 100 fois et crier comme 4 ? Il ne peut lui faire que cette objection. Or, l'idéologie étant un hermétisme total au fait, Madame Pernelle ne peut rien entendre de tout cela. Et c'est ce débat, ce que je veux dire, c'est que ce débat entre le dogme et les faits qu'on lui oppose renseigne à la fois sur la méconnaissance du réel par le dogme et sur l'utilisation que le dogme lui-même peut faire du réel quand il s'attache à ne prélever en lui que ce qui lui convient. On reconnaît un esprit dogmatique au fait qu'il a antéposé sa certitude et qu'ensuite il relève dans le monde tout ce qui va dans le sens de cette certitude. C'est vraiment une pièce formidable pour ça. C'est une pièce sur l'idéologie, je crois, très, très profondément.
J'aimerais qu'on s'offre, Raphaël, un petit moment, une petite pause comique, parce que, encore une fois, c'est Dorine qui m'y fait penser. Lorsqu'elle reprend, elle dit à un moment, elle s'immisce dans le dialogue entre Orgon et sa mère et réutilise les mots d'Orgon, c'est-à-dire le pauvre homme, et elle fait référence à elle-même. Elle cite Orgon au début de la pièce, lorsque celui-ci rentre chez lui, rentre dans son foyer et s'enquiert de sa femme et de Tartuffe.
C'est l'apparition d'Orgon. C'est l'apparition d'Orgon, magnifique, splendide, un Orgon en majesté. Molière le dira mieux que nous, on va l'entendre tout de suite. Scène 5, acte 1, Orgon, Cléante, Dorine, écoutez.
À votre nez, mon frère, elle se rit de vous. Et sans avoir dessein de vous mettre en courroux, je vous dirai tout franc que c'est avec justice. A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice ? Et se peut-il qu'un homme ait un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui ? Qu'après avoir chez vous réparé sa misère, vous en veniez au point ?
Halte-là, mon beau-frère. Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez.
Je ne le connais pas puisque vous le voulez. Mais enfin, pour savoir quel homme ce peut être...
Mon frère, vous seriez charmé de le connaître. Et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme... qui... Oh ! Un homme. Un homme, enfin. Qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde, et comme du fumier regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien. De toutes amitiés, il détache mon âme. Et je verrai mourir frère, enfant, mère et femme, que je m'en soucierais autant que de cela.
Les sentiments humains, mon frère, que voilà.
Oh, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour, à l'église, il venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi, se mettre à deux genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements, et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon qui, dans tout, l'imitait, et de son indigence, et de ce qu'il était, je lui faisais des dons. Mais avec modestie, il me voulait toujours en rendre une partie. « C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. » Et quand je refusais de le vouloir reprendre, aux pauvres, à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel chez moi me le fit retirer. Et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout, et qu'à ma femme même, il prend pour mon honneur un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux, et plus que moi 6 fois, il s'en montre jaloux. Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle. Un rien presque suffit pour le scandaliser. Jusque-là, qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère.
Parbleu, vous êtes fou, mon frère, que je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi? Et que prétendez-vous? Que tout ce badinage...
Mon frère, ce discours sent le libertinage. Vous en êtes un peu dans votre âme entichée. Et comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché, vous vous attirerez quelque méchante affaire.
Voilà de vos pareils le discours ordinaire. Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux. Et qui n'adore pas de vaines simagrines, ni respect, ni foi pour les choses sacrées. Allez, tous vos discours ne me font point de peur. Je sais comme je parle, et le ciel voit mon cœur. De tous vos façonniers, on n'est point les esclaves. Il est de faux dévots, ainsi que de faux braves. Et comme on ne voit pas qu'où l'honneur les conduit, les vrais braves, soit ceux qui font beaucoup de bruit, les bons et vrais dévots, qu'on doit suivre à la trace, ne sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces. Et quoi? Vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion? Voulez-vous les traiter d'un semblable langage et rendre même honneur au masque qu'au visage? Égaler l'artifice à la sincérité? Confondre l'apparence avec la vérité? Estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égal de la bonne? Les hommes, la plupart, sont étrangement faits. Dans la juste nature, on ne les voit jamais. La raison a pour eux des bornes trop petites. En chaque caractère, il passe ses limites. Et la plus noble chose, il la gâte souvent pour la vouloir outrer et pousser trop avant. Que cela vous soit dit en passant, mon beau-frère.
Oui, vous êtes sans doute un docteur qu'on révère. Tout le savoir du monde est chez vous retiré. Vous êtes le seul sage et le seul éclairé. Un oracle, un caton dans le siècle où nous sommes. Et près de vous, ce sont des sots que tous les hommes.
Je ne suis point, mon frère, un docteur révéré. Et le savoir chez moi n'est pas tout retiré. Mais en un mot, je sais... Pour toute ma science, du faux avec le vrai, faire la différence. Et comme je ne vois nul genre de héros qui soit plus à priser que les parfaits dévots, aucune chose au monde est plus noble et plus belle que la sainte ferveur d'un véritable zèle. Aussi ne vois-je rien qui soit plus odieux que le dehors plâtré d'un zèle spécieux, que ces francs charlatans, que ces dévots de place, de qui la sacrilège et trompeuse grimace abuse impunément et se joue à leur gré de ce qu'ont les mortels de plus saint. Et sacré. Ces gens qui, par une âme à l'intérêt soumise, font de dévotion métier et marchandise, et veulent acheter crédit et dignité à prix de faux clins d'yeux et d'élans affectés. Ces gens, dis-je, qu'on voit d'une ardeur non commune par le chemin du ciel courir à leur fortune, qui, brûlants et priants, demandent chaque jour et prêchent la retraite au milieu de la cour, qui savent ajuster leurs ailes avec leurs vices, sont prompts, vindicatifs, sans foi, pleins d'artifices. Et pour perdre quelqu'un, couvrent insolemment de l'intérêt du ciel leur fier ressentiment, d'autant plus dangereux dans leur âpre colère, qu'ils prennent contre nous des armes qu'on révère, et que leur passion, dont on leur sait bon gré, veut nous assassiner avec un fer sacré. De ce faux caractère, on en voit trop paraître. Mais les dévots de cœur sont aisés à connaître. Notre siècle, mon frère, on expose à nos yeux qui peuvent nous servir d'exemple glorieux. Regardez Ariston. Regardez Périandre. Oronte, Alcidamas, Polydore, Clitandre. Ce titre, par aucun ne leur est débattu, ce ne sont point du tout fanfarons de vertu. On ne voit point en eux ce faste insupportable. Et leur dévotion est humaine, est traitable. Ils ne censurent point toutes nos actions. Ils trouvent trop d'orgueil dans ces corrections. Et laissant la fierté des paroles aux autres, c'est par leurs actions qu'ils reprennent les nôtres. L'apparence du mal a chez eux peu d'appui, et leur âme est portée à juger bien d'autrui. Point de cabale en eux, point d'intrigues à suivre. On les voit pour tout soin se mêler de bien vivre. Jamais contre un pécheur ils n'ont d'acharnement. Ils attachent leur haine au péché seulement. Ils ne veulent point prendre avec un zèle extrême les intérêts du ciel plus qu'ils ne veulent lui-même. Voilà mes gens. Voilà comme il en faut user. Voilà l'exemple enfin qu'il se faut proposer. Votre homme, à dire vrai, n'est pas de ce modèle. C'est de fort bonne foi que vous vantez son zèle. Mais par un faux éclat, je vous crois ébloui.
Monsieur, mon cher beau-frère, avez-vous tout dit?
Oui.
Je suis votre valet.
De grâce, un mot, mon frère. Laissons là ce discours. Vous savez que Valère, pour être votre gendre, a parole de vous.
Oui.
Vous aviez pris jour pour un lien si doux.
Il est vrai.
Pourquoi donc en différer l'affaire?
Je ne sais.
Auriez-vous autre pensée en tête?
Peut-être.
Vous voulez manquer à votre foi?
Je ne dis pas cela.
Nul obstacle, je crois, ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses.
Selon.
Pour dire un mot, faut-il tant de finesse? Valère, sur ce point, me fait vous visiter.
Le ciel en soit loué.
Mais que lui reporter?
Tout ce qu'il vous plaira.
Mais il est nécessaire de savoir vos desseins. Quels sont-ils, donc?
De faire ce que le ciel voudra.
Mais parlons tout de bon. Valère à votre foi, la tiendrez-vous ou non?
Adieu.
Pour son amour, je crains une disgrâce. Et je dois l'avertir de tout ce qui se passe.
Molière use dans cette scène du comique de répétition où il excelle vraiment.
Ah oui, voilà. Ah oui, c'est un modèle du genre. Vous savez, ça rappelle dans la famille du comique de répétition magnifique chez Molière.
Les Fourberies de Scapin.
Alors, il y a les Fourberies de Scapin. Mon Dieu, que diable allait-il faire? Que diable allait-il faire cette galère? D'ailleurs, c'est marrant que vous citiez les Fourberies de Scapin, puisque Molière l'a piqué à Cyrano de Bergerac. Mmh. Le fameux que diable allait-il faire? Or, Rostand, on l'a vu tout à l'heure, rend hommage à Molière quand il dit « Et de l'être, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot ». Donc, il y a comme ça un jeu
la
de retour. La boucle est bouclée. D'une certaine façon, Cyrano de Bergerac inspire Molière et Molière inspire Edmond Rostand quand il raconte l'histoire de Cyrano de Bergerac. Mais, alors oui, il y a le fameux que diable allait-il faire. Il y a aussi dans le Misanthrope, quand Orgon arrive avec son sonnet et qu'il lui il demande à Alceste son avis après lui avoir fait 1000 compliments et lui dit « Mais vous pensez qu'il n'est pas beau ?» Et Alceste dit « Je ne dis pas cela !» Je ne dis pas cela, je ne dis pas cela, je ne dis pas cela, jusqu'au moment où il dit, écoutez, franchement, il est bon à jeter au cabinet. Deux choses, avant de parler du comique de répétition lui-même, et pour se faire de s'inspirer de ce que Bergson en dit, et qui commente explicitement cette scène, on va entendre le passage où il le fait. Le comique de répétition, avant d'en venir à ça, un point sur l'expression « le pauvre homme ». Parce que le pauvre homme... Tartuffe se porte bien, il mangea fort dévotement deux moitiés de perdrix, un gigot découpé en hachis, enfin je sais pas, bref. Pauvre, c'est le démuni, c'est la victime, c'est le saint, c'est l'homme du dénuement. Donc il est tout cela à la fois, le pauvre homme. Et cette expression, ce syntagme, qui revient tout au long de la pièce. Hein. Un peu plus loin, par exemple, à la scène dernière de l'acte 3, quand Orgon dit à Tartuffe, une fois que Damis a cru confondre Tartuffe devant son père, en lui disant « Mais enfin, regardez mon père, Tartuffe essaie de séduire, de suborner votre femme », Orgon lui dit, mais enfin mon frère, qu'est-ce qui se passe? Et Tartuffe se couvre de cendres. Et Orgon, à ce moment-là, convaincu par l'argumentaire de Tartuffe, par l'humilité feinte de Tartuffe, termine en disant, en dépit de tous, vous la fréquenterez, faire enrager le monde est ma plus grande joie, et je veux qu'à toute heure avec elle on vous voie. Ce n'est pas tout encore, pour les mieux braver tous, je ne veux point avoir d'autre héritier que vous, et je vais de ce pas en fort bonne manière vous faire de mon bien donation entière, un bon et franc ami que pour gendre je prends, mais bien plus cher qu'un fils, que fils, que femme et que parent. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? Réponse de Tartuffe, la volonté du ciel soit faite en toutes choses. Orgon, le pauvre homme, allons vite en dresser un écrit, et que puisse l'envie en crever de dépit. C'est intéressant d'ailleurs ce rapport à l'envie. Madame Pernelle, pour défendre Tartuffe à la fin de la pièce, dira « Ce sont des envieux qui vous auront forgé sans se compte de lui ». Ici, Orgon s'oppose à l'envie, c'est-à-dire qu'il fait valoir une vertu qui est justement le voilà, Tartuffe c'est l'homme qui n'est pas envieux. Or, Tartuffe est toute envie. Il est toute envie, envie en un mot. C'est un mort-vivant et il est toute envie. Mais j'en viens au comique de répétition, Paola. Dans le livre du rire, Bergson examine cette question du comique de répétition et le fait, je crois, de façon absolument décisive et si belle que toute explication serait superflue. Je voudrais qu'on entende tout simplement le texte et que ce soit par exemple Georges Claes qui nous le lise et qui le donne à entendre. Vous allez voir comme, chers auditeurs, comme Bergson est un philosophe limpide et à quel point, quand les idées sont claires, les mots pour les dire viennent aisément. Écoutez.
On devine que les artifices usuels de la comédie, la répétition périodique d'un mot ou d'une scène, l'interversion symétrique des rôles, le développement géométrique des quiproquos et beaucoup d'autres jeux encore, pourront dériver leur force comique de la même source. L'art du vaudevilliste étant peut-être de nous présenter une articulation visiblement mécanique d'événements humains tout en leur conservant l'aspect extérieur de la vraisemblance, c'est-à-dire la souplesse apparente de la vie. Quand Dorine raconte à Orgon la maladie de sa femme et que celui-ci l'interrompt sans cesse pour s'enquérir de la santé de Tartuffe, la question qui revient toujours « Et Tartuffe ?» nous donne la sensation très nette d'un ressort qui part. C'est ce ressort que Dorine s'amuse à repousser en reprenant chaque fois le récit de la maladie d'Elmire. Et lorsque Scapin vient annoncer au vieux Géronte que son fils a été emmené prisonnier sur la fameuse galère, qu'il faut le racheter bien vite, il joue avec l'avarice de Géronte absolument comme Dorine avec l'aveuglement d'Orgon. L'avarice, à peine comprimée, repart automatiquement, et c'est cet automatisme que Molière a voulu marquer par la répétition machinale d'une phrase où s'exprime le regret de l'argent qu'il va falloir donner. « Que diable allait-il faire dans cette galère ?» Même observation pour la scène où Valère représente à Harpagon qu'il aurait tort de marier sa fille à un homme qu'elle n'aime pas. « Sans dot !» interrompt toujours l'avarice d'Harpagon. Et nous entrevoyons derrière ce mot qui revient automatiquement un mécanisme à répétition monté par l'idée fixe. Quelquefois, il est vrai, ce mécanisme est plus malaisé à apercevoir. Et nous touchons ici à une nouvelle difficulté de la théorie du comique. Il y a des cas où tout l'intérêt d'une scène est dans un personnage unique qui se dédouble, son interlocuteur jouant le rôle d'un simple prisme, pour ainsi dire, au travers duquel s'effectue le dédoublement. Nous risquons alors de faire fausse route si nous cherchons le secret de l'effet produit dans ce que nous voyons et entendons dans la scène extérieure qui se joue entre les personnages et non pas dans la comédie intérieure que cette scène ne fait que réfracter. Par exemple, quand Alceste répond obstinément « Je ne dis pas cela » à Oronte qui lui demande s'il trouve ses vers mauvais, la répétition est comique. Et pourtant, il est clair qu'Oronte ne s'amuse pas ici avec Alceste au jeu que nous décrivions tout à l'heure. Mais qu'on y prenne garde, il y a en réalité ici deux hommes dans Alceste. D'un côté, le misanthrope qui s'est juré maintenant de dire aux gens leurs faits, et d'autre part le gentilhomme qui ne peut désapprendre tout d'un coup les formes de la politesse, ou même peut-être simplement l'homme excellent qui recule au moment décisif où il faudrait passer de la théorie à l'action, blesser un amour-propre, faire de la peine. La véritable scène n'est plus alors entre Alceste et Oronte, mais bien entre Alceste et Alceste lui-même.
Vous voyez, Paola, ce que Bergson dit d'Alceste, on peut le dire d'Orgon. puisque Orgon lui-même compose deux personnages, quand il dit « et Tartuffe » et puis « le pauvre homme ». C'est le même, au fond, dialogue avec lui-même, sauf que... C'est-à-dire que Orgon ne se soucie que de Tartuffe, Orgon ne pense qu'à Tartuffe. Non, en fait, vous avez raison, ça n'a rien à voir. Puisque Alceste n'est pas d'accord avec lui, puisque Alceste dit « je ne dis pas cela » et la politesse est en guerre chez lui contre l'envie de dire son fait à celui qui lui présente ses vers. Non, vous avez raison, c'est pas la même chose.
C'est vraiment la puissance de l'idée fixe.
C'est la puissance de l'idée fixe, absolument. Mais alors, Bergson continue en expliquant du coup que la puissance de l'idée fixe prend la forme d'une mécanique. C'est-à-dire qu'il dit ceci, quand il parle de ces scènes, de ce comique de répétition, il dit « vous aurez du mécanique dans du vivant, vous aurez du comique ». La définition que Bergson donne du comique, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Pourquoi c'est drôle, le mécanique plaqué sur du vivant ? Pourquoi c'est drôle à la façon dont on rit quand on voit Charlot, dans les temps modernes, continuer de visser des écrous imaginaires une fois qu'il est sorti du travail à la chaîne ? Au moment où il se mécanise lui-même. Pourquoi c'est drôle ? Parce que la vie, ça n'est pas la mécanique. Mais, de temps en temps, de la même façon que, dit Bergson, le jaillissement d'une idée, le jaillissement continu d'imprévisibles nouveautés, en quoi consiste la vie elle-même, cristallise, précipite, se réifie, se chosifie en certitudes qui viennent après coup prendre le relais de ce jaillissement initial pour transformer ce qui n'était d'abord qu'une opinion, une intuition, en dogme, ce qui n'était d'abord qu'un un soupçon en certitude. Bref, tous les moments où la vie se fige, elle devient mécanique. Or, pourquoi rit-on à ce moment-là, selon Bergson ? Eh bien parce que le rire est une façon pour la vie de corriger la mécanique elle-même. C'est-à-dire, si le mécanique plaqué sur du vivant, si le comique de répétition nous fait rire, ça n'est pas parce que c'est répétitif. Non, si le comique de répétition nous fait rire, c'est parce que le rire vient réintroduire de la vie là où la vie est morte de son vivant, là où la vie s'éteint, là où la vie s'estompe, là où un individu cesse d'être vivant pour devenir mécanique. Donc le rire, c'est un retour de la vie. Et la détestation de Madame Pernelle à l'endroit du rire renseigne aussi là-dessus. Ce que Madame Pernelle déteste dans le rire, c'est que le rire est tout simplement vivant. Et il est non seulement vivant, mais il est même la façon qu'a la vie de reprendre le pouvoir sur sa dégradation en certitude, en lieu commun, mais c'est moins grave, ici en certitude et surtout ici en intégrisme. C'est ça qu'il faut entendre derrière cette scène. Pourquoi cette scène est drôle ? Pourquoi notre auditeur qui a pu entendre la scène où Dorine raconte le calvaire d'Elmire et le bon repas et la bonne nuit de Tartuffe, pourquoi l'auditeur sourit ou peut rire en entendant cette scène ? Pourquoi est-ce qu'on adore cette scène ? On adore cette scène parce qu'à cet instant, Orgon meurt de son vivant. Il meurt de son vivant, il devient chose, il devient mécanique, et le rire vient le rappeler au fait que tout mécanique qu'il est, il n'en est pas moins vivant lui-même, c'est-à-dire soumis à la réalité des faits et non à ce qu'il a envie d'en voir.
Raphaël, je pense qu'il faut s'arrêter maintenant, malheureusement.
On est au bout, là, déjà ?
Car nous sommes pris de court par le temps. Et
c'est dommage, j'aurais voulu parler de Laurent, moi, du personnage de Laurent.
Oui, et puis de Tartuffe, parce qu'on a, d'une certaine manière, on a mimé la structure de la pièce, car nous nous sommes arrêtés dans cette émission avant même la vraie entrée en scène de Tartuffe. On l'a mentionné, mais on n'a pu écouter aucune scène en présence de Tartuffe,
par
exemple.
Vous avez raison. Il y a tant de choses à dire sur le fait que ce personnage soit tellement fantomatique pendant deux actes avant d'apparaître.
Que nos auditeurs nous sentent venir. Évidemment, il nous faudra faire une seconde émission sur Tartuffe, car on ne peut pas se priver de la scène entre Elmire et Tartuffe, par exemple.
La scène du viol.
Oui, ou même la première.
Où
il se met à nu, il met son âme tout à nu, comme il dit lui-même.
Oui.
Et c'est
pas son âme qu'il voudrait mettre tout à nu. On verra ça la semaine prochaine.
Réparer le sang qu'avait perdu madame. Plus à son déjeuner, quatre grands coups de vin. Oh, le pauvre homme. Yeah, yeah, Tartuffe.
Merci Raphaël, merci à tous, Cédric, François, Alice et à vous, chers auditeurs. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver de nouveau chaque dimanche depuis une semaine. On se retrouve la semaine prochaine d'ailleurs pour une seconde émission moliéresque, Tartuffe en diable, dimanche prochain. D'ici là, nous vous recommandons vivement l'écoute assidue des Nouveaux Chemins de la Connaissance, dont nous ignorons à ce jour le programme, mais que nous savons excellent. Ou bien lisez Philosophie Magazine, disponible dans tous les kiosques de France. À 17h sur France Culture, l'Atelier du Pouvoir, Thomas Vider, Vincent Martini.